d'actualité, Salvatore. C'est aussi ce printemps qui n'en finit pas de se faire attendre. Alors, je vous entends penser une chronique sur la météo, mais c'est du Pomono qui a l'escroc. Vous avez tort, tous autant que vous êtes, car l'Occident a besoin d'herbe, Salvatore Adamo. Et oui, de vers, de prés, de nature.
On en a pris 5 tonnes il n'y a pas longtemps.
C'est vrai. C'est vrai. Mais on en a quand même toujours besoin de nature ressuscitée. Lisez Printemps, mes amis. Pensons Sibylle Veil. Mais ça, c'est autre chose. Non, ce besoin, la littérature l'a bien compris, elle qui comprend tout de nous. Et elle nous offre un petit essai merveilleux, érudit et très accessible, qui s'appelle La fraîcheur
c'est
de l'herbe.
C'est pour moi que vous dites ça.
Ouais, non, vous allez voir. Non, parce que c'est pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui adorent l'histoire et qui n'ont peut-être pas envie de se plonger dans un essai universitaire très pointu et qui décourageraient les élans les plus ardents. Non, ça c'est accessible à tout le monde.
Les couillons, écoutez bien, c'est pour vous. Hein.
Mais pas du tout, pas du tout. Mais non, pas du tout. La fraîcheur de l'herbe, histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours. Et l'auteur Alain Corbin, peut-être que vous le connaissez, monsieur Adamo, mais c'est le seul historien qui a écrit une histoire du silence, une histoire de l'odorat ou alors une histoire de l'arbre. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que l'histoire des sens avait autant de poids dans notre genèse que l'histoire des intellects. Et c'est pourquoi nous l'adorons. Et là, du coup, dans cet opus, il étudie l'herbe. Alors, vous l'avez très probablement remarqué, voire ressenti, dans nos environnements urbains, l'herbe, aujourd'hui, est devenue une notion rare, voire presque sacrée. Le citadin, lui, il veut sa forêt, il veut sa campagne. Ce sont devenus des valeurs refuges, souvent d'ailleurs un peu idéalisé. Eh bien, rien d'étonnant à cette nostalgie, dit Corbin, puisque l'herbe est, je cite, « incrustée dans la mémoire de l'homme ». Et en effet, c'est sa compagne la plus ancienne, probablement avec la pierre. Et elle est donc, dit Corbin, porteuse d'origine. Souvenez-vous de vos sensations, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de très enfantin à courir dans l'herbe, si possible pieds nus, et à s'y rouler. Et puis, depuis toujours, l'herbe soigne, ce sont les herbes médicinales. Elle peut accueillir comme un lit, la fameuse sieste dans l'herbe, qu'on, j'espère, vous avez tous fait. On peut aussi y mourir, dans les romans médiévaux, quand le chevalier est blessé, on le porte et on le pose sur un tas de joncs et d'herbes. Et donc, du berceau au tombeau, l'herbe est immémoriale. Et ce lien entre l'homme et l'herbe va même plus loin, nous dit Corbin, puisque l'homme lui donne des vertus morales. Alors ça, c'est la grande affaire des écrivains. Goethe disait que l'herbe était, je cite, « une force endormie ». Ronsard ou Jean Giono ont adoré sa résurrection à chaque printemps. Et d'ailleurs, en ancien français, on ne dit pas le printemps, on dit la reverdie. C'est-à-dire que l'herbe est associée à la persévérance. L'idée, c'est qu'elle pousse et elle croît, quoi qu'il arrive. C'est une sorte de nature indifférente au sort des hommes. Et cette sorte d'égoïste insouciance peut apaiser les esprits les plus mélancoliques, puisque mon chagrin sera toujours moins fort qu'une prairie qui renaît. En fait, c'est un peu ça. Et cette obstination à vivre lui vaut des ennemis à l'herbe. Par exemple, les paysans la détestent. C'est la fameuse mauvaise herbe. Mmh. C'est cette teigne qui pousse entre les pavés, dans les villes, éventuellement dans le cerveau de Guillaume Meurice. La mauvaise herbe est moins jolie que les hautes herbes ou les herbes folles. Et le dictionnaire Becherel de 1860 qualifie même la mauvaise herbe de méchante herbe. Corbin ajoute, je cite, là aussi rien d'étonnant, cette détestation renvoie plus généralement à celle de la sauvagerie. Pourquoi ? Mais parce qu'on est très loin du tapis herbeux immaculé qu'il y a devant les châteaux, comme quoi l'herbe est aussi un marqueur social. Alors après, il y a eu tout un courant artistique à partir du XVIIe siècle qui s'est pris de passion pour la mauvaise herbe. Alors, c'était au XVIIe siècle, mais il y a eu le sommet, c'est Victor Hugo. Pour Victor Hugo, en gros, le sublime, il est en bas. Il est du côté des pas beaux, quoi. Et c'est dans les misérables, en bas de l'échelle sociale, que M. Madeleine dit « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme ». Je termine, et il le fait, par la puissance érotique de l'herbe, évidemment, l'expression « le gazon », je ne vous apprends rien, mais ça vient de là. Des romans libertins au « Déjeuner sur l'herbe » de Manet, l'herbe exacerbe le désir et fait de la fornication un acte militant écologique. En bref, comme l'écrit... Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Guillaume Meurice. En bref, comme l'écrit Gustave Flaubert à sa compagne Louise Collet, on peut mettre un immense amour dans l'histoire d'un brin d'herbe. Dont acte avec ce livre, La fraîcheur de l'herbe de Alain Corbin est paru chez Fayard.
Merci, ouais, Clara Dupont-Mono.